Tout de suite, la chronique du grand large de Patrick Simon, des violations de l'obligation d'impartialité. Bonjour Patrick.
Bonsoir Claudia. Oui, je vais vous parler de ça, puisque dans ma dernière chronique sur le rapport à l'oncle, j'avais souligné ce qu'était cette obligation, n'est-ce pas ? Se mettre à distance des partis pris, des préjugés, des opinions pour donner à voir tous les points de vue, toutes les sensibilités, en s'extrayant de ses propres préjugés et convictions, en distinguant les faits des commentaires. Alors, est-ce que cette obligation est respectée sur les médias du service public ? Le rapport à l'oncle répond par la négative à cette question et donne des exemples précis et concrets de ces manquements. Alors j'en ai, je ne peux pas tous les citer, mais j'en ai sélectionné quelques-uns et que je vais vous donner maintenant, amis auditeurs. Le 25 janvier 2026, France Info a diffusé à l'antenne le bandeau suivant « 200 otages palestiniens retrouvent la liberté ». Alors qu'il s'agissait de détenus palestiniens dont un certain nombre avaient été condamnés pour des faits de terrorisme. Ce n'étaient donc pas des otages. Deuxième exemple. Le 14 octobre 2025, sur France Culture, M. Rami Abou Jamouche, fondateur du média Gaza Press, a affirmé que le Hamas n'était pas un groupe terroriste, mais un mouvement de libération. Avant d'ajouter, c'est un peu comme ce qui s'est passé le 11 septembre. On a découvert 20 ans après, c'est quoi l'histoire du 11 septembre ? C'est pareil pour le 7 octobre. De tels propos, tenus sur une antenne du service public au lendemain du premier anniversaire du massacre du 7 octobre 2023, cumulent deux dérives. La légitimation d'une organisation terroriste et l'accréditation d'un imaginaire complotiste autour des attentats du 11 septembre. Troisième exemple, tiré de compléments d'enquête. Vous savez, compléments d'enquête, c'est l'émission de Mme Élise Lucet, si je ne m'abuse. Et là, il y avait un complément d'enquête consacré à la chaîne CNews, à la question du lien entre immigration et délinquance. Et à l'oncle dit, votre rapporteur a relevé que l'émission s'était appuyée sur une note du CEPI, centre de recherche rattaché au Premier ministre, pour affirmer l'absence de lien causal entre immigration et délinquance, sans mentionner plusieurs données statistiques officielles qui semblent contredire cette thèse. Les données du ministère de la Justice indiquent qu'au mois d'avril 2020, il y avait 65 000 détenus dans les prisons françaises, dont 23,5% d'étrangers, alors qu'on ne compte que 7% d'étrangers dans la population française, toujours selon des chiffres du ministère de l'Intérieur publiés en 2019. 93% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun en Île-de-France sont commis par des étrangers. Quatrième exemple, c'est l'exemple du glyphotest diffusé dans Envoyé spécial le 17 janvier 2019. L'émission a mis en scène une série de tests urinaires réalisés sur plusieurs personnalités dont Julie Gayet, la comédienne Julie Gayet, compagne de François Hollande, afin de montrer la présence de glyphosate dans leur organisme. Le procédé relève déjà pour une partie d'une logique de spectacularisation de l'information par le recours à des célébrités comme Julie Gayet. Ce qui n'est pas sans poser la question au regard de la délibération précité de la confusion entre information et divertissement. Surtout, le taux relevé chez Mme Julie Gayet, 1,26 microgrammes par litre, a été présenté à l'antenne comme « énorme », entre guillemets, alors même que plusieurs analyses ont souligné qu'il demeurait très éloigné des seuils sanitaires construits à partir des références toxicologiques retenues par les autorités compétentes. En effet, les évaluations menées notamment par l'ANSES et le EFSA reposent sur des ordres de grandeur sans commune mesure avec les niveaux ainsi évoqués. Et alors, un peu plus loin, nous avons dans ce rapport un développement spécifique qui est consacré à Madame Élise Lucet, la productrice de Cash Investigation et de Complément d'enquête. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent ces émissions, mais elles sont gratinées. Alors, je vais citer donc le rapport à l'oncle à nouveau à ce sujet. Entendue sous serment le 10 février 2026, Madame Élise Lucet a affirmé, je cite, « Je précise d'abord que non, on ne va jamais devant le domicile des personnes qu'on veut interviewer, mais non, on ne va pas devant le domicile de quelqu'un. » Citation. Un peu plus loin dans le rapport, il est dit ceci. Dans le cadre du numéro de Cash Investigation consacré à LVMH et diffusé sur France 2 le 4 décembre 2025, Madame Élise Lucet s'est rendue devant le domicile de l'homme d'affaires Nicolas Puech en Suisse, allant jusqu'à interroger la femme de ménage de celui-ci. La charte de Munich interdit aux journalistes d'user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies, des documents. Lorsqu'une émission du service public, comme celle-ci, paraît s'autoriser au nom de l'efficacité de l'enquête des procédés dont la loyauté peut être sérieusement discutée, elle entame la confiance du public non seulement dans le programme lui-même, mais dans la probité de la démarche journalistique qu'il prétend incarner. Et, alors, mon opinion au sujet de l'impartialité de Madame Lucet, que j'ai d'ailleurs expérimentée, elle est faite depuis des années. Mais, amis auditeurs, vous pouvez vous la faire, vous aussi, même si vous ne connaissez pas ces émissions, vous pouvez vous la faire, vous avez là un exemple de ce flagrant mensonge, puisqu'elle a été devant le domicile à interviewer la domestique, et ça en dit long. Alors, je continue les exemples de ces violations de l'impartialité. Publié par France Info, cette fois-ci, il y avait un contenu sur les réseaux sociaux intitulé « Les nazis ont-ils créé les marchés de Noël ?» Ce contenu établissait un lien entre le développement des marchés de Noël en France et leur promotion par le régime nazi. France Télévisions a par la suite présenté ses excuses, reconnaissant implicitement que la formulation initiale n'était pas satisfaisante au regard des exigences déontologiques applicables aux services publics. Et encore plus symptomatique, voici un exemple concernant le Rassemblement national. L'écrivain Laurent Mauduit a déclaré, je cite, « Mussolini, 1922, les milieux financiers sont derrière lui 4 ans ou 5 ans avant. L'Allemagne, c'est l'exemple le plus caricatural, le plus célèbre, tous les grands patrons allemands sont du côté de Hitler avant même qu'il n'accède au pouvoir. » Puis plus récemment, c'est 1973, le Chili de Pinochet, c'est le coup d'État soutenu par tous les milieux d'affaires. Fin de citation. En rapprochant ainsi, dit le rapport à l'oncle, les rencontres récentes de Mme Marine Le Pen et de M. Jordan Bardella avec des dirigeants du CAC 40 et de grands industriels français, avec le soutien apporté par les milieux d'affaires à Mussolini, Hitler ou Pinochet, il suggère aux téléspectateurs qu'une telle évolution annoncerait par nature une trajectoire comparable à celle des régimes fascistes ou dictatoriaux du XXe siècle, ce qui dépasse de loin la simple analyse de l'évolution des rapports entre un parti politique et le monde patronal. Outrancière, cette comparaison constitue par association un manquement grave à l'obligation de neutralité. Enfin, dernière illustration, parce que il y en aurait des milliers, mais il faut que je retrouve la page. Voilà, c'est la page 117. Ça sera ma huitième et dernière illustration. Sur le plateau de chez Politique, Madame Stéphanie Precioso y a été présentée comme une simple, ouvrez les guillemets, historienne spécialiste du fascisme et de l'antifascisme. Fermez les guillemets. Pour commenter le meurtre de Quentin Derenck, alors qu'elle est en réalité une militante d'extrême gauche revendiquée, membre de Solidarité Esch, ancienne députée suisse, participante au jeudi communiste de Révolution Permanente, candidate sur des listes de l'Union populaire en Suisse et signataire d'appels publics en faveur de candidats de la France insoumise. Ces séquences dessinent un même schéma. Des personnalités aux engagements connus sont introduites sous des étiquettes neutres. Ce sont des spécialistes, des opposants, avocates, historiennes, qui privent le public d'éléments essentiels d'appréciation, à savoir que ce sont des militants d'extrême gauche. Voilà, je vous ai donné huit exemples qui montrent la partialité et des informations sur le service public. Vous en avez bien d'autres, mais ceux-là sont éclairants. Et je vous dis à bientôt.
Je vous remercie, Patrick, et à la semaine prochaine, à la même heure.
À la semaine prochaine. Au revoir, Claudia.
Au revoir. Tout de suite, la suite du Libre Journal du lundi soir, dirigé par François Constantini. Il est question de la rencontre Trump-Xi Jinping, des élections locales et des manifestations en Grande-Bretagne, avec Alexandre Delval, auteur du Nouvel Ordre post-occidental. Bonsoir, François Constantini.
Bonsoir, Claudia. Merci de votre assistance, en tout cas, et de votre bienveillance, comme d'habitude, ponctuée par un sourire très agréable. Chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir d'avoir, comme d'habitude, mon complice Pascal Mas, conseiller diplomatique spécialiste des BRICS, et mon grand ami Alexandre Delval, qui cette fois-ci ne nous a pas fait faux bond, n'est-ce pas ? Je vais assez tirer les oreilles là-dessus. Et comme c'est un ami, il ne m'a pas tenu rigueur également de ma rigueur, donc j'ai le grand plaisir de l'accueillir avec nous. Alexandre Delval, bonsoir.
Bonsoir.
Alexandre Delval, on ne vous présente plus, hein, 25 ans pratiquement de carrière d'écrivain, d'universitaire, de géopoliticien. Vous avez écrit, je crois, une vingtaine de livres à peu près, traduits également dans plusieurs langues. Hein. Vous avez commencé en 1997 avec le fameux livre « Islamisme, États-Unis, une alliance contre l'Europe, puis guerre contre l'Europe ». Au lendemain du 11 septembre 2001, vous avez été une star médiatique parce que vous aviez vu de façon prémonitoire à peu près hein, dans « Islamisme, États-Unis, une alliance contre le... on a pratiquement en filigrane, également, malheureusement, les éléments du 11 septembre, et puis vous avez évolué, vous êtes un peu spécialisé, plus généralisé en géopolitique, notamment la mondialisation dangereuse, et votre dernier livre, alors j'aimerais beaucoup qu'on en parle maintenant, qui est le Nouvel Ordre post-occidental. Alors Alexandre Delval, pourquoi déjà le Nouvel Ordre post-occidental? Déjà, la question que je pose à l'écrivain, pourquoi et comment et quand avez-vous décidé d'écrire ce livre ?
J'ai décidé, merci tout d'abord de cette invitation, j'ai décidé d'écrire ce livre quand Trump est revenu au pouvoir, parce que certains le voyaient comme un occidentaliste. Si on définit l'occidentalisme comme le blond wasp lecteur d'Huntington qui veut limiter l'immigration, on a l'impression que c'est un occidentaliste. Mais en fait, l'occidentalisme ne veut plus du tout dire un défenseur de la civilisation occidentale depuis déjà pas mal de temps. L'Occident est devenu synonyme de mondialisme. L'Occident est devenu synonyme de globalisme, de wokisme, de libéralisme philosophique au sens anglo-saxon du terme, pas au sens économique du terme. Et en fait, l'Occident est devenu l'anti-Occident. Et donc, je me suis dit, avec le retour ou l'arrivée d'un souverainiste impérial, hémisphérique, dit-on, comme M. Trump, qui veut sauver sa civilisation, qui critique la dérive tiers-mondiste de l'Europe, qui veut préserver l'identité chrétienne WASP américaine, je me suis dit, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas plus opposé au globalisme que ceux qui, comme lui, défendent l'Occident identitaire. En gros, pour terminer à cette réponse, l'Occident identitaire, c'est un peu le projet de Orban, de Trump, de Mélanie, c'est préserver la civilisation occidentale, mais pas comme un globalisme, mais comme un ensemble d'États souverains. Ça, c'est la véritable défense de l'Occident concret, l'Occident civilisation. L'autre forme d'Occident, le globalisme, qui reprend le mot Occident, mais qui n'a plus rien à voir avec une civilisation, veut construire un projet global, répandre les mêmes valeurs partout, et ce n'est pas du tout le cas de Trump. Alors, je ne suis pas là pour dire que Trump est quelqu'un de bien. Le but de ce livre, ce n'est pas de faire l'apologie de Trump. Je ne suis pas du tout un espèce parmi ces Européens qui vénèrent les Américains et qui regardent toujours les références américaines. Mais je voulais montrer que quelque chose allait changer parce qu'il n'a pas de morale, il n'a pas d'universalisme, il n'est pas prosélyte, il ne cherche pas à répandre des valeurs, il cherche les intérêts de son pays et on peut dire de son empire, parce que l'Amérique reste un empire, et il veut un empire hémisphérique, mais il est capable d'arrangements, donc au niveau vertical, il veut un hémisphère totalement sous son contrôle. Il a commencé à Panama, à Cuba. Il va bientôt terminer à Cuba. Il a commencé aussi au Venezuela. Il a mis l'Europe à genoux parce que l'Europe est encore plus vassale qu'avant, mais sauf qu'elle paye ses armes encore plus et elle paye plus pour sa défense. Et elle prend les responsabilités d'un risque de guerre avec la Russie. Donc c'est quand même relativement bien joué. En gros, l'Europe va payer plus cher pour acheter plus d'armes américaine, plus de gaz de schiste américain, et s'il y a une guerre avec la Russie, les Américains ne seront pas co-belligérants, ce sera l'Europe. Et donc là, il a réussi un grand chelem. Apparemment, sur l'Iran, c'est plus difficile, mais c'est un homme du monde multipolaire, parce que, comme on l'a vu avec Xi, et je termine, avec Xi Jinping en Chine, il est capable d'être étonnamment poli, et vous avez vu, écoutant,
on va y venir,
quand il a affaire avec quelqu'un, à quelqu'un de puissant. Donc il est multipolaire et post-occidental dans le sens où il peut s'entendre dans un nouveau Yalta, avec ceux qui sont puissants. Il est capable de s'entendre et ça ne le gêne même pas moralement parce qu'il n'est pas prosélyte.
Alors justement, est-ce que ça veut dire à partir de là que Trump, s'inscrivant en faux, notamment par rapport au président démocrate, je parle particulièrement à Biden mais surtout à Obama, a renoncé en quelque sorte à être l'Amérique monde, l'Amérique messianiste? Et en quelque sorte, vous savez, je vous ramène un peu au livre Testament de Huntington dont on parle peu,
oui.
Who We Are, qui sommes-nous. On parle beaucoup de Clash of Civilization, Clash of Civilization, mais peu de ce livre, où en fait, dans ce livre que vous avez lu, comme moi, en fait, on voit en filigrane et l'élection d'Obama et l'élection de Trump,
oui.
Qui montre un peu la contradiction américaine. Est-ce que vous, Trump, a renoncé au messianisme, à l'état monde, aux idéaux de Wilson, aux idéaux de Kennedy, même aux idéaux de Reagan dans une certaine mesure? Est-ce que Trump, justement, c'est le président qui revient avec America First, en fait, à dire que les États-Unis sont un héritage WASP, finalement, pas forcément lié avec l'Europe, et qu'finalement, ils ont leur partie à jouer, et ça veut dire qu'il renonce au messianisme mondial?
Je pense que oui. Je pense qu'il renonce non pas à l'impérialisme. Il continue de défendre un empire, d'ailleurs hémisphérique, hein, quand il veut le Groenland et vassaliser l'Europe. Ça reste un empire, mais un empire qui n'est plus global. D'ailleurs, d'où la coupure des aides à l'USAID, au National Endowment for Democracy. Il y a, dans mon chapitre 6, j'analyse beaucoup ces deux instances.
Alors,
qui font le boulot de la CIA.
Pour rappeler, pour nos auditeurs, l'USAID, c'est l'aide au développement. Hein, en quelque sorte, c'est l'Agence américaine du développement, l'équivalent de l'AFD en France.
Oui.
Et un Parlement for Democracy, ce sont des aides notamment qui sont versées à plusieurs ONG, notamment qui luttent contre des régimes dits autoritaires ou autocratiques ou illibéraux. Hein, voilà.
Absolument, merci de la précision. Et la National Endowment for Democracy, la NED, qui travaille beaucoup avec Canvas, est à l'origine, avec l'appui secret de la CIA et officiel de l'USAID, de la plupart des révolutions de couleur dites de velours, Géorgie, Ukraine, Kyrgyzstan, etc., mais également du printemps arabe. C'est les mêmes. Hein. Moi, j'ai beaucoup étudié ça avec Gene Sharp, la fondation Albert Einstein, et avec Canvas. Vous savez, le Canvas, ils ont ce logo avec le point levé. Il y a eu beaucoup d'ingérences, d'ingénierie sociale et politique, et Trump est parfaitement conscient que ça a déséquilibré le système international, et il sait parfaitement que cette ingénierie politique en Ukraine a contribué à au conflit ukrainien qui pour lui est inutile, puisque ce qui compte c'est la rivalité systémique avec la Chine. Ça ne veut pas dire la guerre, il est capable de s'entendre, mais il faut privilégier un rival majeur à la fois et ne pas avoir 36 fronts. Et donc, de ce point de vue, oui, c'est vrai, il a renoncé au messianisme. Et vous avez raison de citer le dernier livre de Samuel Huntington, Who We Are, qui sommes-nous ? Parce qu'il est fondamental, ce livre. Il est l'inverse de ce que pense Obama, mais il est une grande partie du programme de Trump. Ce n'est pas forcément ce que va faire Trump, qu'on m'entende bien quand je dis programme. Un programme, ce n'est qu'un programme. Parce qu'il y a le Trump qui avait un programme anti-interventionniste, et maintenant il intervient en Iran. Mais dans son programme, dans ce qui a plu aux Américains, qui a fait qu'ils ont voté pour lui, il y avait beaucoup du texte de M. Huntington. En gros, Huntington, à la fin de sa vie, disait « Nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous restons globalement WASP, identitairement et culturellement WASP, et psychologiquement WASP, soit nous ne maîtrisons pas les flux migratoires et nous deviendrons un Mexique un peu plus riche. » Et ça, moi personnellement, ça ne me gêne pas que l'Amérique devienne mexicaine. Mais je peux comprendre qu'un WASP, un vrai WASP, anglo-saxon, white, anglo-protestant, il n'a pas envie que son pays se latinise et se catholicise et se mexicanise. Et c'est l'une des préoccupations majeures de Trump et aussi de son équipe, même s'il a un latin comme Marco Rubio. C'est après le programme est rarement appliqué. Donc, mais en tout cas, c'est ce qui a plu aux Américains. Il dégageait un peu cette vision à la fois renoncer au messianisme qui nous coûte cher et qui fait qu'on s'occupe de tout et de rien. En plus, ça dévirilise notre armée parce que les mêmes qui finançaient l'ingénierie politique en Ukraine, hein, l'USAID, c'est les mêmes qui finançaient la promotion du transgenrisme et des quotas de transsexuels dans l'armée. On a même eu à un moment un ministre de la guerre, de la défense américain qui était en jupe. On a les photos sont quand même assez parlantes et on comprend la réaction un peu viriliste. C'est une réaction face à tout ce qui pourrait affaiblir l'Amérique, dépenses inutiles à l'extérieur, promotion qui nous met en porte-à-faux avec des pays. Ça sert à rien de vouloir répandre la démocratie en Arabie Saoudite. C'est son fameux discours en Arabie Saoudite, à mon avis, est fondateur. Il dit « Nous ne venons plus exporter quoi que ce soit. Votre modèle, c'est vous qui le méritez. C'est pas grâce à nous. Ce ne sommes pas nous qui allons construire votre modèle, c'est votre propre voix que nous respectons. » Donc ça, c'est le Trump intéressant anti-interventionniste. Après, comme vous le savez, c'est pareil pour nous, pour nos hommes politiques. Il y a ce que les hommes politiques annoncent. Même ils y croient un peu. Puis après, il y a ce qu'ils doivent faire, parce que moi, je crois que les hommes politiques ne sont pas seuls. Il y a la continuité des États. Il y a le Deep State. Vous qui connaissez bien la Turquie, François, le Deep State, ça vient du Derin Devlet, c'est les Turcs qui ont inventé l'expression, l'État profond. Et l'État profond, c'est pas du complot, c'est juste la continuité de l'État. Il y a des structures extrêmement lourdes, surtout pour les empires ou les grands États, qui perdurent et qui transcendent les alternances politiques. Et c'est pour ça que Trump est beaucoup plus interventionniste que prévu.
C'est une reprise notamment de Max Weber, hein, qui dit que l'administration s'auto-reproduit, quelles que soient les alternances démocratiques. Hein, Max Weber a jugé ça il y a pratiquement un siècle.
Génial, Max Weber. Hein,
Max Weber, notamment, qui avait vu en quelque sorte que l'administration, en quelque sorte, s'imposait au pouvoir politique, qu'elle s'auto, en tout cas, qu'elle s'auto-fécondait et qu'elle s'auto, en tout cas, reconstruisait. Elle-même, et qu'elle arrivait même à acquérir une certaine autonomie par rapport au pouvoir politique. Hein. C'est dans Savant et le politique, il me semble,
où
il avait parlé de ça. Et en effet, Max Weber avait vu en effet cette tendance à l'administration à s'autonomiser et à créer sa propre légitimité.
Oui.
Alors, un dernier mot pour finir. Ensuite, Pascal Mas vous posera, j'en suis sûr, brûle de vous poser un certain nombre de questions. Ce nouvel ordre post-occidental, est-ce que vous pouvez nous en planter le décor, le schéma, en quelques mots et de façon illustrée, comment vous le voyez ?
Il est structurel. Il est structurel parce que quand il y avait les colonies, le monde déjà non occidental existait. Mais on était un peu plus nombreux, les blancs européens, judéo-chrétiens. On est passé de 20 à 8% de la planète. Mais en plus, ceux qui n'étaient pas occidentaux démographiquement ou culturellement ou ethniquement étaient sous emprise occidentale. Et donc, les choses étaient différentes. Depuis qu'il y a eu la décolonisation, et ce que j'appelle la seconde décolonisation, c'est-à-dire 20, 30, 40 ans après la décolonisation, il y a ceux qui veulent se décoloniser psychologiquement, culturellement, idéologiquement. C'est ce qui arrive dans beaucoup de pays ex-coloniaux. Ils veulent se débarrasser de notre influence. Et ça, c'est le multipolarisme culturel et idéologique et des valeurs. La multipolarité des valeurs, le polycentrisme des valeurs. Ou alors ce que monsieur Jeanne Shakir, vous savez, le ministre des Affaires étrangères indien, avec un de ses conseillers, Amitav Acharya, que je cite beaucoup dans mon livre, il parle de plurinormativisme. En gros, sans employer de « isme », ce monde multipolaire, il est à la fois avec les BRICS, avec l'OCS, l'Organisation de la coopération de Shanghai, il est à la fois avec l'OCI, l'Organisation des 57 pays musulmans, le Forum de Kazan, dont on parle il n'y a pas longtemps, Russie, monde islamique, il est à la fois aussi avec le néo-indigénisme en Amérique latine, et la volonté de l'Inde, par exemple, de faire d'ériger un modèle qui n'a plus rien à voir avec le Parti du Congrès. En gros, le Parti du Congrès, qui a longtemps régné en Inde, il a des valeurs occidentales, laïques, tolérantes, qui fait la part belle aux musulmans, aux minorités, etc. Non, Modi, c'est l'Inde hindouiste, l'Hindutva, et on va régler le sort de tous ceux qui sont des religions non asiatiques.
Mais qui ne pose pas un guerrier qui est plutôt pour un modèle pacifique au plan international.
Il est
ce qui remonte d'ailleurs aux racines de l'Inde, puisque on se rappelle, il y a plus de 2 millénaires, je crois, qu'il y avait un texte qui était écrit, oui. C'est un des premiers textes diplomatiques, à peu près écrit par un Indien. Alors le nom m'échappe, mais je l'ai cité dans mon livre, Moyenne de la relation internationale, j'ai oublié, où justement il prône l'existence, mais dans un monde déjà pacifique, avec des vecteurs diplomatiques. C'est assez intéressant.
Absolument.
L'Inde, elle a certes une relation d'adversité avec le Pakistan, avec la Chine, mais au plan global, elle n'est pas dans une démarche de conquête.
Bien sûr.
On est au contraire. Hein.
Elle veut s'intéresser à l'Inde, elle veut que les normes de l'Inde soient des normes indiennes, fondées sur l'Hindutva. C'est l'idéologie du RSS, c'est le parti idéologique qui a inspiré le BJP au pouvoir. Donc l'Inde est très intéressante, elle est multi-alignée. Si vous voulez, comme pour répondre à votre question, ce monde post-occidental, c'est un monde qui n'a plus rien à voir avec ce que nous connaissons. Nous avons des alliances un peu cartésiennes, on est avec ou contre, on est tous pour un pour tous, c'est l'OTAN. Si j'entre en guerre, c'est ce que nous dit Macron, si la Pologne entre en guerre contre la Russie, on devra faire la guerre à la Russie. Le monde multipolaire est très pragmatique, rien à voir avec tout ça. Si la Russie est en guerre avec l'Ukraine et même avec l'OTAN, la Chine l'aidera dans la mesure où c'est dans son intérêt, de manière indirecte, mais jamais en belligérance directe. Il n'y a pas d'alliance contraignante.
Voilà,
Il n'y a pas d'alliance contraignante.
Si vous me permettez, la Chine déjà a une pratique ancestrale, c'est que la Chine est un pays rétif à tout traité. Pourquoi ? Parce que passer un traité pour la Chine, c'est une relation d'égalité. Rappelons-nous que la Chine, Zhanhu, le centre du monde, c'est-à-dire qu'ils ne conçoivent pas de relations d'égalité.
Absolument.
Très longtemps, la Chine a refusé d'échanger des ambassadeurs.
Et elle a été traumatisée par les traités inégaux.
Elle venait à contrôler, les traités inégaux en plus. J'allais y venir, justement.
Mais c'est vrai qu'elle n'aime pas...
La guerre de l'opium l'ont totalement traumatisée, donc elle n'aime pas les traités,
absolument.
Même avec la Russie. Il n'existe aucun traité.
Aucun.
Alors, elle en a passé un récent.
Il y a des coopérations.
Elle en a passé un récent avec l'Iran, on va peut-être en parler justement.
Très important.
Et la Chine a cette réticence, il faut
le
souligner.
Absolument. Et pour l'Inde, aujourd'hui, la nouvelle doctrine de l'Inde, elle n'est plus non alignée comme sous la guerre froide, elle est multi-alignée. La nouvelle doctrine de l'Inde, c'est le multi-alignement opportuniste. Et ça, c'est très important de comprendre que l'Inde, aujourd'hui, elle est un petit peu le diapason, elle est un petit peu le modèle, par exemple, pour des pays comme les Émirats. Les Émirats Arabes Unis, par exemple, ils sont à la fois membres des BRICS, ils sont à la fois ennemis de l'Iran, mais dans la même organisation que l'Iran à l'intérieur des BRICS. Les Émirats aident les Russes à contourner les sanctions, mais tout en étant en bon terme, même en excellent terme avec l'Amérique, et en accueillant une base militaire française.
En étant sous le parapluie américain.
Et sous parapluie américain.
Et israélien,
et maintenant,
même.
De plus en plus israélien.
Et même israélien, le dôme de fer
française,
a pratiquement une extension,
absolument.
Il faut savoir, aux Émirats.
Plus un accord de défense avec la France assez
avec
poussé.
Avec une base française à Abu Dhabi.
Ça veut dire quoi pour nos auditeurs ? Dans le monde multipolaire, un petit pays comme les Émirats, mais puissant quand même, ou l'Inde, sont capables d'être alliés à des pays totalement antinomiques. Ils sont capables même d'être dans les mêmes organisations que leurs ennemis. Ça paraît totalement incompréhensible pour un occidental, parce que nous sommes dans un monde manichéen. Il y a une alliance qui est contre une autre alliance. C'est pour ça qu'on a eu des magnifiques guerres mondiales. On s'est fait 3 guerres mondiales qui ont littéralement suicidé l'Europe, parce qu'on était dans des jeux d'alliance. Le monde multipolaire a pris les leçons de tout ça et il est pragmatique. Donc ce monde multipolaire, il y a plusieurs normes, plusieurs institutions, plusieurs formes de démocratie, pas la nôtre, et même pourquoi pas de démocratie du tout. La Chine montre un exemple d'un État, une sorte de despotisme éclairé, où ce qui compte c'est plutôt l'efficacité, l'intérêt commun. Si on gère bien son État et les populations mangent de mieux en mieux, et bien finalement, c'est pas grave qu'il n'y ait pas de démocratie. Donc ce monde, voilà, il est tout à fait débarrassé des normes, de l'influence, de l'idéologie occidentale. Et enfin, ce monde, il a une dimension assez anti-wokiste. Pourquoi ? Le wokisme, c'est pas que la partie sexuelle. Le monde occidental est considéré comme un poison qui déstructure et qui déconstruit tout. Vous savez, le fameux homme déconstruit de Madame Rousseau, c'est un petit peu ça que l'Occident propose à la face de l'humanité. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de frontières, et on va tout déconstruire au nom de l'individu roi, du matérialisme, du consumérisme et de l'hédonisme. Et ça, les sociétés du monde multipolaire, de l'Afrique à l'Asie, à l'Amérique latine, voient ça comme un danger mortel. Et ils n'ont pas tort, existentiel, parce que quand vous faites venir ce libéral, ce libertarisme ou ce libéralisme excessif au sens anglo-saxon du mot libéral, eh bien il n'y a plus aucun ordre, aucune hiérarchie. En gros, et je le cite dans mon livre pour conclure, c'est Lee Kuan Yew, le créateur d'un bout de terre que la Malaisie ne voulait même pas, qu'il a repris, il en a fait un bijou avec les valeurs de la tolérance zéro, du confucianisme. Il appelle ça les valeurs asiatiques. Ça a beaucoup inspiré également un musulman comme Mahathir,
qui est le père fondateur et un
de
Singapour. Et
il a
qui en 1965 s'est détaché notamment par référendum. Absolument. De la Fédération de Malaisie, pour une raison Absolument. Simple, c'est que 80% de sa population était chinoise.
Absolument, et la Malaisie n'en voulait pas. La Malaisie a accepté.
Les Singapour, c'est bien tout organisé.
C'est des marécages.
Oui, les absolument. Anglais avaient tout organisé.
Voilà. Et donc, et comment il a fait le secret ? Comment a-t-il fait le secret de son pays, la Malaisie ? Eh bien, Lee Kuan Yew a fondé les valeurs de son pays sur ce qu'il appelle les valeurs asiatiques, elles-mêmes fondées sur le confucianisme. Voilà, donc peut-être que vous voulez dire quelque chose.
Alors, Pascal Mas, vous voulez rajouter quelque chose ?
C'est difficile de parler après Alexandre Delval, parce que, évidemment, je me suis réjoui de relire son chapitre 5 de son livre en ce qui concerne l'ouverture du nouvel ordre occidental. Bon, j'ai quelque chose à dire. Alexandre Delval en a parlé brièvement. C'est que le forum de Kazan s'est déroulé la semaine dernière. Et bon, évidemment, les Occidentaux n'en ont pas tenu une seule minute de compte, mais c'est devenu le 17e forum de Kazan.
Rappelez-nous, Pascal Mas, ce que c'est que le forum de Kazan.
Alors, à l'origine, c'était un forum de la finance islamique. À l'origine. Aujourd'hui, c'est la 17e édition. Enfin, l'origine, c'est la semaine dernière. Mais maintenant, il y a des réunions au niveau de la mode, au niveau de s'occuper de l'environnement, de protéger les bêtes, les animaux qui sont en difficulté, et l'écologie. C'est-à-dire que le forum de Kazan, qui était à la base une réunion islamique basée en Russie, est devenu maintenant un forum de discussion à la base pour les pays musulmans, bien sûr. C'était la Tunisie qui était le pays invité et d'honneur cette année. De nouveaux contrats ont été faits. L'Algérie a déclaré des protocoles avec la Russie, au détriment de la France, soulignons-le. Et de la France et de l'Occident en général. Hein. La Turquie a fait des contrats. C'est-à-dire qu'un autre monde, ce n'est pas simplement celui des BRICS qu'Alexandre Delval connaît très bien, et nous sommes sur ce côté-là en pleine adéquation, mais il se trouve qu'il y a d'autres concepts avec des partenariats qui ne sont pas formalisés selon des accords, selon des des choses. C'est pas l'organisation de la de China et de Shanghai. Ça, c'est autre chose, parce que c'est l'organisation de coopération de Shanghai, c'est un peu comme l'Union européenne. Mais les BRICS, c'est pas du tout ça. C'est que, comme Alexandre Delval l'a bien souligné tout à l'heure, il y a des pays qui sont ennemis, qui sont conflictuels.
À commencer par l'Inde et la Chine. Hein.
Alors ça, vous parlez de ça, mais moi je parlerai plutôt de l'Iran avec les pays arabes unis.
Oui.
Alexandre.
Oui, oui, pour le forum de Kazan, dans la République de Tatarstan, est très intéressant parce qu'il y avait aussi l'ISESCO qui était invité. L'ISESCO, c'est une sorte d'UNESCO du monde musulman, c'est le pendant UNESCO de l'OCI, et l'OCI, c'est l'équivalent de l'ONU du monde musulman. Alors l'ISESCO, c'est pas non plus forcément enrichissant pour nous, parce que l'ISESCO, c'est le fameux UNESCO du monde musulman qui a un programme carrément, qui a été d'ailleurs dicté par Qardawi, l'un des pontes des frères musulmans, jurisconsulte, qui projette la façon dont on va islamiser l'Europe. Donc l'ISESCO, c'est pas forcément réjouissant qu'il ait été invité à Kazan, et je pense que même pour les Russes, à un moment, ça va devenir problématique, parce que tant que c'est une réunion où la Russie bénéficie de rapports avec des pays musulmans, mais qui en général combattent l'islamisme radical comme elle, ça va. Mais si ça inclut la subversion d'organisations comme l'ISESCO, qui est clairement une émanation idéologique des frères musulmans, même si c'est une organisation internationale, ça peut être problématique. Mais en enlevant le jugement et sur la partie problématique, ce qui compte, c'est qu'effectivement, la Russie se rapproche de tout ce qui est non occidental. Nous n'avons pas voulu de la Russie dans l'Occident. Elle est dans un virage eurasiste, à la fois eurasiste vers l'Asie, puis vers le monde musulman, mais également vers l'Afrique et l'Amérique latine, que je décris dans le chapitre 5, qui est la réponse au fait qu'elle voulait s'occidentaliser. Pour nos auditeurs, pendant des années, il y avait deux courants en Russie. Il y avait un courant anti-Douguine, qui était le courant de Poutine d'ailleurs. On oublie que celui qui est soi-disant le cerveau de Poutine n'était pas du tout son cerveau, il ne l'a jamais reçu. Alexandre Douguine, avec sa théorie pan-asiatique, eurasiatique, et anti-occidental, il n'était pas du tout écouté. Mais dans ce dépit amoureux, l'homme qui vient du clan des occidentalistes, Poutine, qui vient du clan d'Anatoly Sobchak, l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, qui était le clan des pro-occidentaux, parce que Poutine a plusieurs vies, après avoir été soviétique, il a été pro-occidental, et par dépit ou par réalisme, il s'est dit « bon, l'Occident ne voudra jamais de moi, nous fait des sales coups, fait des révolutions contre mes alliés, donc je vais me rapprocher du monde, du monde non-occidental, ce monde post-occidental, et la Russie est en train de bâtir avec l'Inde, avec la Chine, avec les Émirats, avec beaucoup de pays d'Amérique latine, avec pratiquement toute l'Afrique, un écosystème mondial parallèle, concurrent, pas forcément toujours ennemi, mais différent de l'ordre occidental. C'est ce que j'appelle l'ordre post-occidental. C'est un fait, c'est même pas une question d'opinion, c'est un fait. Et est-ce que nous allons nous adapter à ce monde? Ça, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire renier nos valeurs. Parce que je voudrais dire à nos auditeurs que quand le monde devient moins occidental, ce n'est pas dangereux pour nous. Parce que ces pays-là, ils ne veulent pas que nous soyons, nous, non-occidentaux chez nous. Ça ne les gêne pas du tout que nous soyons des chrétiens, des Européens. Au contraire, ils ne nous respectent absolument pas quand nous sommes mondialistes. Ce qui les ennuie surtout, c'est notre mondialisme, c'est cette dérive globaliste, mondialiste de l'Occident. Mais si l'Occident est identitaire, le meilleur exemple, c'est Orban. Orban était l'homme le plus apprécié par Erdogan. L'homme qui était le plus sollicité en Turquie, le plus reçu en Turquie, l'homme qui avait les meilleures relations avec le monde turcophone,
rappelons également
c'était Orban.
Orban.
Et pourtant, il était contre l'islam chez lui.
Orban a revivifié ce qu'on appelait la communauté turcique, c'est-à-dire que les communautés notamment qui ont des racines turques, c'est-à-dire qu'il y avait la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, c'est-à-dire tous les États d'Asie centrale, sauf le Tadjikistan qui est persan, et la Hongrie.
Absolument.
Hein, il faut le rappeler. C'est-à-dire que la Hongrie reconnaissait même ses racines.
En russe, on dit Magyaristan.
Absolument. Voilà. Mais c'est intéressant pour nos auditeurs. Ça veut dire quoi? Bizarrement, ça va vous étonner, mais le pays qui a les meilleures relations avec le monde islamique, ce n'est pas Londres, qui maintenant est boycotté par les Émirats Arabes Unis. Ce n'est pas le pays du Londonistan, l'Angleterre. C'est le pays qui ne voulait aucun musulman chez lui. Bizarrement, un des pays qui est le mieux vu par Erdogan, c'est le pays dont le leader, qui a été à peine battu il n'y a pas très longtemps, ne voulait pas de musulmans chez lui. Ça veut dire quoi? Ces pays-là, en fait, ce qui les ennuie, ce n'est pas qu'un pays ne veuille pas l'immigration. C'est le contraire. Plus vous avez d'immigration chez vous, plus vous avez de musulmans chez vous qui risquent d'être contaminés par les valeurs occidentales, et donc plus des musulmans risquent d'être, en gros, dénaturés, désislamisés. Et là, ça met un porte-à-faux. Donc, contrairement à ce que croient les buonistes, comme on dit en Italie, les gens qui ont de la bien-pensance, plus une société occidentale accueille un nombre important des millions de musulmans, plus il est sûr d'avoir des problèmes avec les pays musulmans, parce que ces pays musulmans, ce qui les ennuie, ce n'est pas que vous soyez chrétiens, c'est que vous vouliez aider par vos institutions, vos écoles, à rendre moins musulmans un musulman.
Oui, attention, ça, Alexandre, rappelons le projet. Attention, Alexandre, parce que...
Au début des années 90, oui. Le Front islamique de salut, qui était à deux doigts, qui avait gagné les élections en décembre 1991,
il votait à droite.
Qui ont été annulés. Oui. Non, parmi son projet, oui. C'était le rapatriement de ses émigrés.
Absolument.
Émigrés, notamment algériens.
Pour la droite française.
En France.
Et la droite française allait voir le fils.
D'ailleurs, même Jean-Marie Le Pen, à l'époque, absolument. S'était dit que le fils pouvait être un partenaire.
Attention, Alexandre.
Absolument.
À partir du moment, notamment, où il faisait rentrer ces étrangers, il faut savoir que les musulmans voient dans un phénomène d'acculturation en Occident quelque chose de dangereux.
La pire des menaces.
Voilà.
La pire des menaces. Moi, j'ai beaucoup étudié la doctrine islamiste, quelle qu'elle soit, de tous les différents courants, que ce soit le Milli Gülrüş turc ou que ce soit les frères musulmans ou les salafistes. La pire chose pour les musulmans très conservateurs ou islamistes, c'est quand un musulman est contaminé par des lois, des mœurs non musulmanes. Et donc, l'Europe aura des problèmes. Plus elle aura d'immigration islamique, plus elle aura des problèmes.
Je voudrais rappeler quand même, Alexandre et François, c'est que ce que vous dites est parfaitement vrai à propos de la menace vue d'Istanbul, mais l'islam le plus dangereux aujourd'hui n'est pas de cette origine. Il vient du Pakistan, il vient d'autres endroits, et on voit bien en Grande-Bretagne que ce ne sont pas les gens qui sont manipulés par Istanbul qui sont en train de prendre les choses en main en Angleterre. Donc, ce que vous dites, Alexandre, j'y souscris fondamentalement, c'est que l'islam turcique, c'est comme ça qu'on appelle ça, des pays qui sont de langue turque, comme l'Azerbaïdjan, comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et compagnie, c'est vrai que ça existe et que Erdogan a une vocation, a une ambition de refaire l'ancien empire ottoman, mais oriental, pas celui d'Occident. Il n'a pas du tout envie de reprendre l'Algérie, l'Égypte ou je ne sais quoi d'autre. Il s'en fout de ça. Et c'est l'objectif d'Erdogan, c'est de reprendre la turcisation des pays dont on parle la langue, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan, Kazakhstan, et bien entendu, comme en Russie, il y a aussi des territoires de langue turcique, et le Tatarstan en est un, je peux vous assurer que le tsar ne trouve pas ça très drôle.
Ah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais moi, je serais moins enthousiaste que vous sur l'islam turc, parce que pour Londres, vous avez raison, pour Londres, pour l'Angleterre, par contre, en Allemagne, il y a un véritable problème avec l'islam turc, qui n'est pas turcique dans ce cas-là, puisque le Milli Gülrüş et la mouvance qui sort du Milli Gülrüş, parce que les gens mélangent souvent Erdogan et le Milli Gülrüş, il vient du Milli Gülrüş, qui est une sorte c'est pas les frères musulmans, mais c'est l'équivalent turc des frères musulmans, mais avec une spécificité très turque. Erdogan en vient, mais le Milli Gülrüş a son propre parti, qui est contre celui d'Erdogan aujourd'hui, même si c'est la même matrice. Et le Milli Gülrüş, c'était Erbakan, un ami d'ailleurs de Jean-Marie Le Pen, c'est assez étonnant. Erbakan, le père de l'islamisme turc, oui, c'était un grand copain.
Qui a envoyé son avion. Jean-Marie Le Pen me l'a raconté. Jean-Marie Le Pen m'avait dit qu'Erbakan, Erdogan avait su qu'il était en Ankara, et pour une visite d'ailleurs protocolaire comme député européen, et il avait envoyé son avion et il avait passé un jour ou deux dans sa résidence privée.
Absolument, d'ailleurs. C'est ça, c'est les grands paradoxes pour nos auditeurs. Vous voyez que la géopolitique, c'est intéressant parce qu'il y a toujours des paradoxes. C'est un homme proche de monsieur Jean-Marie Le Pen qui a rédigé les finances publiques du Maroc, c'était le fameux Martinez.
Jean-Claude Martinez.
Et c'était monsieur Jean-Marie Le Pen, l'homme politique que le père politique d'Erdogan, beaucoup plus dur qu'Erdogan, aimait le plus. Et il voyait en lui un homme traditionnel qui était contre, le mariage gay, pour la famille traditionnelle, pour l'éducation privée, etc. Mais en dehors de cela, cet islamisme turc du Milli Gülrüş est quand même très dangereux, notamment en Allemagne. En Allemagne, il pose un problème énorme parce que l'idée, comme je le disais tout à l'heure, la Turquie n'a aucun problème avec un pays qui n'est pas musulman. Mais dès lors que vous avez des musulmans, et a fortiori des musulmans turcs chez vous, la Turquie, comme le Maroc, ne supporte pas qu'ils s'intègrent. Elle ne veut pas qu'ils deviennent des Allemands ou des Français.
Le roi Hassan II avait dit qu'il était contre, Hassan II était contre l'intégration.
Absolument. Hassan II a fait des vidéos, d'ailleurs, il faut avouer, dans une langue magistrale,
avec un charisme. Avec Sinclair, c'était un monument.
Oui. Non, il avait un charisme, un verbe que beaucoup de Français n'ont pas, y compris dans l'hémicycle.
Rappelons, c'était quelqu'un qui était pratiquement docteur en droit, qui avait fait du droit, etc.
Et une autorité morale lorsqu'il parlait.
Qui maniait les cultures françaises et arabes, d'ailleurs, d'une façon magistrale. Les deux,
et nous ne l'avons pas écouté. Il avait dit, attention, si vous accueillez des millions de musulmans chez vous, surtout si c'est mes sujets marocains, ils ne deviendront jamais des Français. Alors peut-être qu'il a tort pour certains, moi j'en connais qui sont parfaitement intégrés au sens de désintégrés presque, mais il nous avait averti, il a dit attention, quand vous accueillez des communautés musulmanes massives, ce sera un moment, une pierre d'achoppement, parce que nous ne voulons pas et nous ne laisserons pas s'intégrer à vos valeurs. Erdogan parle souvent de l'Europe en voie de putréfaction, et il compare l'intégration au sens assimilation à un crime contre l'humanité.
Est-ce que vous savez ce qu'a dit Erdogan, les premiers mots d'Erdogan lors de sa réélection en 2023?
Oui, il a dit « si vous votez pour moi, vous votez contre le LGBT ».
Il a dit en effet « la différence entre nous et les autres, c'est que nous ne sommes pas LGBT ». C'est magistral.
C'est magistral. Alors, c'est pas une question
d'approuver ou de pas approuver, mais c'est la vision qu'a Erdogan du monde occidental et même des conflits, effet, des conflits sociétaux en général, qui sont pour lui essentiels.
Absolument.
Et Erdogan a dit ça. Alors, LGBT, ça ne veut pas dire être...
Absolument.
Contre les homosexuels.
Oui,
je signale quand même au passage que l'idéologie LGBTQ+, qu'on nous rajoute, c'est d'ailleurs pour moi d'ailleurs
C'est un substitut,
en effet. C'est pour ne pas lutter contre l'homophobie. La lutte contre l'homophobie qui est tout à fait, à mon avis, concevable, remarquable et légitime. Oui. Pour un certain nombre de raisons, d'ailleurs, de l'origine notamment souvent des agressions homophobes, cette idéologie LGBT, en quelque sorte, c'est une idéologie qui se substitue, mais en tout cas, elle est vue comme une idéologie, en tout cas, de déliquescence de l'Occident,
absolument,
notamment par Erdogan. J'étais frappé d'écouter son discours et de dire que la première chose qu'il a dit à partir de moment, c'est ça, que la césure, c'était pas la droite, la gauche, même pas l'islam, la chrétienté, c'était ceux qui étaient LGBT,
absolument,
et ceux qui n'étaient pas, y compris en Turquie. Il accusait ses adversaires, notamment du CHP, du HDP et d'autres, d'être favorables à cette idéologie.
Absolument, non, je suis d'accord avec vous.
Ça s'entend à Moscou, à Pékin, comme à Dakar.
Absolument. Alors, à Pékin, vous avez raison, c'est très intéressant. Dans mon livre, j'avais cité un extrait d'une phrase qui était sortie d'une sorte de présentation de la sécurité nationale annuelle. Et dans le septième point, la déliquescence occidentale, qu'ils appelaient les valeurs anarchiques de l'Occident, était présentée par le Parti communiste chinois comme une menace existentielle si elle contamine la Chine. Donc, la Chine nous voit comme un poison. Quand je dis nous, le globalisme occidental, à la fois messianique ou prosélyte, universaliste, individualiste, consumériste, est considéré comme un poison d'autodestruction en Chine, par l'Inde de Modi également, par l'ensemble du monde islamique et par pratiquement toute l'Afrique, parce que l'Afrique est totalement réfractaire au prosélytisme gay et encore
sûr.
Plus au LGBT.
Il suffit de voir comment M. Mélenchon a été acclamé pour la première partie de son discours, et puis lorsqu'il a commencé à parler des LGBT, il s'est fait pratiquement lourder. Bon, moi je veux dire par là, c'est quand...
C'est-à-dire, c'est une pierre d'achoppement, c'est ça qui est grave, c'est que nous croyons, les Occidentaux croient que leur libéralisme extrême, qui est beaucoup lié à l'antiracisme, à l'inclusion, on va être bien vu par les Africains et les musulmans, puisqu'on veut inclure. Sauf que eux, ce qu'ils comprennent, c'est qu'on veut inclure au transgenrisme, on veut inclure à celui qui est contre la famille, à la dénatalité, à la perte des valeurs, au rejet de la religion, aux femmes. Ce que nous avons perçu et présenté comme une empathie vers eux est considéré comme un système d'autodestruction et de déliquescence. Et ça, c'est le monde multipolaire. Il va falloir que nous comprenions. Et c'est une bonne nouvelle pour nos auditeurs. Je veux dire pourquoi. Dans le monde multipolaire, les valeurs sont presque les mêmes que les souverainistes européens. Les souverainistes européens et le monde multipolaire est contre le globalisme. Donc si on enlève la pierre d'achoppement de l'intégration et de l'immigration qui brouille les cartes, s'il n'y avait pas l'immigration, un exemple comme un pays comme la Hongrie, il n'y a aucun problème entre un souverainiste européen et quelqu'un du sud global ou du monde multipolaire.
Alors, Eric Sandelval, merci. Je voudrais qu'on arrive enfin On a évoqué à travers votre livre notamment beaucoup un très large panorama des affaires mondiales et qu'on arrive au point notamment que je souhaite aborder, la rencontre entre Trump et Xi Jinping.
Oui.
Alors Trump a été invité par Xi Jinping. Il faut savoir que Trump va rendre l'invitation puisque Xi Jinping va être invité à la Maison Blanche en septembre. Oui. Donc ça veut dire que cette fois-ci les présidents vont peut-être se rencontrer à des intervalles réguliers. Peut-être que les sommets sino-américains vont devenir en tout cas une matrice importante dans la lecture de la conception des relations internationales. Rappelons qu'il n'y avait pas eu de rencontre entre le président américain et chinois depuis 9 ans. La dernière, c'était Trump.
Oui.
L'administration Biden avait ignoré notamment la Chine. Et quant à Barack Obama, il avait débarqué en Chine. J'avais regardé, il avait débarqué sur le derrière de l'avion avec un accueil assez froid. Alors que là, Trump, ça a été un accueil grandiloquent avec des enfants qui vont dresser les drapeaux. Notamment, il a été reçu, il est allé au Palais du Peuple, il est à la résidence des empereurs, il y a eu un dîner d'ailleurs somptueux qui a servi, d'ailleurs où paraît-il Trump s'est fait apporter sa propre nourriture. On est quand même dans la méfiance, on est venu avec des téléphones portables, mais ça m'a fait penser notamment à Kissinger, hein, notamment son livre Testament de la Chine, où Kissinger dit, il faut rappeler quand même que Kissinger a été l'homme qui a fait établir des relations entre la Chine et les États-Unis. Hein. Pourquoi ? Parce que lui, il pensait que dans un jeu à trois entre les Soviétiques, les Chinois et les Américains, vu l'hostilité qu'il y avait entre Chinois et Américains, tout communistes qu'ils étaient, mais en tout cas l'animosité qu'il y avait entre les deux, il fallait faire entrer la Chine dans le jeu et jouer un jeu de bascule qui profitait aux Américains. C'est vrai que ça a profité aux Américains dans une certaine mesure. Et vous êtes Kissinger prône dans son livre de la Chine un condominium. Il dit qu'en effet... il dit que ça a fait trembler le monde, son dernier paragraphe, quand avec le premier ministre Xuanlai, à l'époque, ils avaient fait le communiqué, ils avaient dit que ça faisait trembler le monde. Il dit, nous ne devons pas faire trembler le monde, nous devons, Américains et Chinois doivent le construire. Hein. Alors il y a eu notamment des allusions, hein. Trump a parlé de grandes civilisations, Xi Jinping, lui, hein, tout communiste qu'il est, s'inscrit dans les 5000 ans de civilisation.
Hein, il l'a dit d'ailleurs.
Il y a eu notamment des fleurs qui ont été envoyées, que Xi Jinping a rappelé qu'on est dans les 250 ans des États-Unis. Hein, alors déjà, pour commencer, sommes-nous rentrés, Alexandre Delval, dans la configuration d'un condominium sino-américain ?
Non, pour moi, on n'y est pas encore, mais ça fait partie des possibilités. Il y a un duopole qui est en train de s'installer, mais un troisième élément, la Russie, a beau avoir un PIB bien inférieur, elle a quand même une masse territoriale, une importance énergétique et un savoir-faire technologique et militaire et aussi un arsenal qui fait qu'elle est pour l'instant dans une sorte d'ensemble tripolaire. D'ailleurs, dans quelques jours, après la visite...
Vladimir Poutine, mi-juin, voilà. 15 et 16 juin, Poutine a annoncé sa prochaine venue en Chine.
Poutine vient en Chine et
tout le monde a rendez-vous à Pékin.
Tout le monde a rendez-vous à Pékin, mais ça montre qu'il y a un dialogue à trois que j'annonce dans mon livre. Il y a un dialogue entre Pékin, Moscou et Washington pour un partage du monde qui n'est pas encore fait, mais qui est illustré par la fameuse carte un peu comique que M. Trump a dessiné un jour. Il a pris une carte, il a écrit dessus « L'hémisphère occidental, c'est moi, me. L'Europe, c'était écrit Poutine. » Alors bien sûr, ça ne va pas être exactement comme ça. Et l'Asie, c'était Xi. Et donc, je pense que nous sommes dans un pré-Yalta. Peut-être qu'il y aura un duopole plus tard. Un monde bipolaire, un nouveau monde bipolaire américano-chinois, parce que l'anarchie mondiale est l'état naturel dans les relations internationales, mais pour l'école réaliste, statistiquement, il y a un peu moins d'anarchie quand il y a un duopole qu'un système tripolaire qui est plus problématique. Mais momentanément, il va y avoir un système tripolaire, voire quadrupolaire, parce que l'Inde compte beaucoup. Et bien sûr, les deux primus inter pares ex aequo, ça va être longtemps les États-Unis et la Chine, parce que je pense, contrairement à ce que disent certains, que l'Amérique ne va pas s'écrouler d'un coup. L'Empire américain, contrairement au tiers-mondiste Emmanuel Todd, je ne pense absolument pas que l'Amérique s'est déjà à moitié écroulée. Je pense certains anti-américains prennent leur vessie pour des lanternes et ils projettent leur fantasme sur le réel. Ils disent ce qu'ils souhaitent plus que...
Il suffit d'écouter les médias mainstream en France. J'écoute les chaînes d'information continue, à part une peut-être. C'est quand même incroyable cet anti-américanisme qui ressort d'ailleurs.
Oui.
Surtout, alors c'est bizarre parce que depuis qu'il y a Trump, avec Obama et Biden, on n'est pas anti-américaniste, c'était véritablement la lune de miel entre les médias mainstream et le système, les États-Unis. Là, véritablement, les États-Unis sont devenus quelque sorte le pays à abattre, hein, comme
alors
un
moi-même,
peu
je suis assez anti-soviétique. Je suis assez anti-américain au niveau politique, mais je pense que toute idéologie radicale empêche le jugement. Et donc l'anti-américain primaire va être aveuglé, il va voir les choses comme il voudrait alors, qu'elles soient.
Voilà,
je pense que l'Amérique a beaucoup de points de résilience. Donc, très rapidement, Panama, le Venezuela, ce qui se passe à Hormuz, le contrôle des routes, le contrôle de Malacca, qui est le fameux dilemme de Malacca en relations internationales. Si la Chine tient l'Amérique et le reste du monde par les technologies, les terres rares et les semi-conducteurs et surtout les terres rares et les métaux stratégiques, il y a une carte dans mon livre que j'ai faite, hein, 85% des métaux précieux, pas que les métaux rares, en général, c'est toute la chaîne d'approvisionnement est chinoise, de l'Indonésie à l'Afrique en passant par la Chine, etc. Mais par contre, Trump tient les routes du commerce et les routes où on importe, où on exporte, et il tient la mer par la plus grande flotte du monde, d'où l'intérêt de la Chine à augmenter sa flotte. Chaque année, la Chine construit l'équivalent de la flotte anglaise. Donc elle va y arriver.
Rappelons qu'elle est à 3 porte-avions et les Américains
absolument
sont à 11.
Mais les Américains sont à 1500 milliards de budget militaire. Donc,
alors attention, les Américains sont à 950 milliards, je corrige.
Qui va être porté à 1500.
Voilà. Ils sont pas loin de 1000 pour,
ils
sont pas loin de 1000
ils pour, sont un
pour
peu moins
2026.
De 1000 maintenant, ils vont aller
et
à 1500.
Et PTX7, notamment, dans son passage devant le Congrès, puisqu'ils ont été obligés, au bout de 60 jours de conflit, de passer devant le Congrès, a annoncé justement qu'ils allaient passer de 1000 à 1500 milliards en une année, hein, pratiquement.
C'est-à-dire les trois quarts de budget militaire mondial. Donc l'Amérique, ceux qui disent qu'elle est foutue, qu'elle va être redoublée par la Chine, attention, c'est un peu moins rapide, mais ça va peut-être se faire, mais c'est comme la dédollarisation. Ceux qui disent, comme Charles Gave ou d'autres que j'aime bien, hein, oui, le dollar est fini, c'est beaucoup plus lent que ce que l'on souhaiterait si on le souhaite.
Alexandre Delval, je vous interromps puisque Claudia me fait signe pour un passage au Bino et ensuite on interrogera Pascal Mas sur la question du condominium sino-américain.
D'accord.
Cher Claudia, c'est à vous.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Cher Pascal Mas, je vous pose la question, va-t-on vers un condominium sino-américain?
Alors, moi, je me réjouis d'entendre Alexandre Delval, évidemment. J'apporte ma note plutôt russophone, russophile, sur son analyse, que j'approuve à 200%. Bon, donc, non, les États-Unis ne sont pas à la ramasse. Ça, c'est sûr. Non, la dédollarisation n'est pas encore actée. Des travaux sont en cours, notamment à travers la Organization Bank, la banque
de développement des BRICS.
Voilà, c'est ça, des BRICS. Mais comme Alexandre Delval l'a tout brillamment souligné, c'est qu'il ne s'agit plus, les BRICS ne sont pas une agence comme l'Union européenne ou comme des trucs qui sont bloqués partout. Chacun fait ce qu'il veut. Si on veut traiter avec les Indiens, on le fait. Si on veut traiter avec l'Iran, on le fait. Si on veut traiter avec l'Égypte, on le fait. Si on veut traiter avec l'Éthiopie, on le fait, sans avoir demandé aux autres. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un truc que les Occidentaux, notamment européens, n'ont pas compris. C'est que le club des BRICS, c'est un club de pays souverainistes qui font ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent, même si ce sont des adversaires ou des ennemis. Donc, en ce qui concerne l'économie, et comme l'a dit Alexandre Delval, c'est que la Chine est en train de organiser la route de la soie terrestre avec la Russie, à travers le Kazakhstan, à travers toute la base, parce que c'était une des routes privilégiées stratégiques de la route de la soie, qui était la route historique. Les routes de la soie, ça passait pas par le golfe de Suez ou je ne sais quoi. C'était les caravanes qui passaient depuis la Chine vers l'Europe, et vers Constantinople, vers Istanbul. Bon, donc, du fait que la crise d'Hormuz et le fait qu'il y ait des problèmes avec la mer Rouge, malgré la présence chinoise d'une base juste à côté de la base française et de la base américaine, mais qui n'utilise pas cette puissance. Ils vérifient simplement si leurs bateaux ne seront pas attaqués par les Somaliens ou par les Éthiopiens ou je ne sais qui d'autre. Pour l'instant, c'est pas ça. C'est pas un truc stratégique. Mais la route de la soie terrestre, elle redevient quelque chose de crédible. Russie, Chine, Russie, Europe. Je vous rappellerai quand même, il suffit simplement de regarder un atlas, qu'on peut aller d'un endroit à l'autre à pied.
Et pour nous lier à l'actualité, l'aboutissement de la route de la soie de l'Asie centrale s'appelle l'Iran. C'est l'aboutissement final de la route de la soie
c'est
avec la Turquie.
C'est la route du
c'est
Sud.
C'est extrêmement stratégique.
C'est la route du Sud.
Oui, parce qu'il y a plusieurs routes de la soie terrestre. Absolument. Ce qu'on appelle les Belt and Road Initiative.
Voilà. Mais la vraie route du Nord, c'est celle qui passe à travers le Kazakhstan et qui contourne complètement et qui peut avoir des ouvertures vers l'Azerbaïdjan, vers la Turquie et pour le Sud et vers la Baltique pour le Nord.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Iran est ultra stratégique. Et pour la route transversale ou horizontale chinoise, Belt and Road Initiative, les fameuses dites routes de la soie, mais aussi pour la Russie. L'Iran est l'aboutissement d'un corridor nord-sud.
Nord-sud.
Donc l'Iran, c'est le corridor nord-sud, c'est l'aboutissement du corridor nord-sud pour les Russes et est-ouest-sud pour les Chinois. Donc c'est là qu'on voit l'importance extraordinaire, énorme, de ce grand pays de 90 millions d'habitants qui a plus d'ingénieurs produits par an que la France et dont peut-être Trump a sous-estimé la résilience et la préparation.
Et dont 20 millions sont azéris, c'est-à-dire plus nombreux que les azéris d'Azerbaïdjan.
Alors 20 millions, oui, c'est au moins un tiers, donc c'est peut-être même encore plus que 20 millions. C'est énorme, vous avez raison. Et d'où la bêtise d'avoir voulu armer les Kurdes.
Voilà. Parce alors que écoutez, je voudrais qu'on se recentre un peu sur notre programme et qu'on en vienne à la rencontre Trump et Xi Jinping. Il y a un sujet qui a été abordé, c'est celui de Taïwan.
Oui.
À fortiori, il paraît que c'est... Il apparaît quand même, c'est Xi Jinping qui a mis le sujet sur la table.
Oui.
En effet, où il
c'était
a dit, prévu. Il a mis en garde contre le fait que la question de Taïwan soit, je cite, mal gérée. Quelques temps après, Trump a fait une déclaration en disant qu'il s'opposait à toute déclaration d'indépendance. Alors, rappelons ce que ça veut dire être indépendant pour Taïwan. Rappelons, en 1945, la Chine, c'est la Chine du Kuomintang, qui est vainqueur, il faut rappeler également, des Japonais, le Kuomintang, les partis communistes sont à un moment alliés, et c'est elle qui est partie prenante aux Nations Unies, donc c'est elle qui entre aux Nations Unies, qui hérite du siège de membre permanent au Conseil de sécurité. S'ensuit la guerre civile entre le Kuomintang et les communistes gagnent, mais la Chine, dite nationaliste, se replie sur Formose, Taïwan, et elle est légalement la Chine. La République populaire de Chine n'est pas reconnue. C'est seulement en 1971 que par un basculement du vote, un vote à la majorité des deux tiers de l'Assemblée Générale, que la Chine, c'est la République populaire de Chine qui est reconnue comme seule Chine. Il n'y a qu'une seule Chine qui peut être reconnue. Résultat, Taïwan est évincé du Conseil de sécurité, mais également des Nations Unies, et est évincé notamment de la communauté internationale.
Une seule Chine.
Et rappelons, alors aujourd'hui, Taïwan, qu'est-ce qu'il y a? Il lui reste quoi? Se faire reconnaître comme Chine? Elle a très peu de probabilité, puisque plus personne ne reconnaît Taïwan comme Chine, même la France de Gaulle en 64 reconnaît la République populaire sans pour autant dénier des droits de Taïwan. Et Taïwan, qu'est-ce qui lui reste? Ben, une déclaration d'indépendance, renoncer à reconnaître la Chine et se faire reconnaître comme l'État. Ça, la Chine n'en veut à aucun prix. La Chine, elle, ce qu'elle propose, c'est, comme elle le dit, un pays, deux systèmes. Ce qu'elle a proposé à Hong Kong avec la loi fondamentale, on a vu quand même qu'elle a bafoué quand même la loi fondamentale, puisqu'elle devait respecter la loi fondamentale de 84, l'accord sino-britannique mis en place à partir de 1997, le retour de Hong Kong à la Chine. Rappelons-le, 1842, traité de Nankin, Hong Kong, territoire à bail. En fait, il n'y a pas de véritable souveraineté, mais un territoire à bail, notamment britannique. Ça a été restitué le 1er juillet 1997. Rappelons que depuis, avec région Hong Kong était en théorie région administrative spéciale, l'est toujours avec un système démocratique parlementaire et également un sous souveraineté chinoise, un système libéral. On voit que la Chine, sur le système libéral, place ses pions et pratique un certain nombre d'accaparements, notamment dans le système d'hôtellerie, de restauration, des industries, et que sur le plan des libertés, elle a tordu le cou aux libertés, notamment la révolution des parapluies, elle pourchasse les opposants et elle garrote véritablement les libertés publiques. Et les Taïwanais sont visiblement assez échaudés, ils ne veulent pas véritablement de ce principe, ce principe chinois, un pays de système.
Moi,
Trump, justement, a envoyé un signal en disant qu'il ne voulait pas de déclaration d'indépendance. Là-dessus, il a relayé dans certaines mesures le message de Xi Jinping. Rappelons que dans le moment, quand Trump est arrivé En effet, à Pékin, les Américains avaient conclu un accord de fourniture d'armement militaire pour 11 milliards de dollars. Alors, à votre avis, est-ce que Taïwan, Alexandre Del Valle, on demandera ensuite à Pascal Mas, va faire les frais notamment de rapprochement chino-américain?
Moi, je pense que les choses à Taïwan ne sont pas exactement comme on le dit. Quand le président, soi-disant, enfin, dit indépendantiste, a gagné les élections il y a 2 ans, tout le monde a dit Taïwan renforce sa volonté d'être indépendante, sauf que le parti majoritaire, qui peut s'allier avec un autre parti qui est beaucoup moins indépendantiste, le parti majoritaire qui a eu plus de 51% des voix, le Kuomintang, est contre l'indépendance de Taïwan. Donc ça a cablé beaucoup de Taïwanais qui ont voté pour un parti qui est devenu rattachiste. La présidente de ce parti la présidente rattachiste de ce parti était en visite à Pékin il y a quelques jours, et elle était en visite pour aller faire en gros baiser la main de monsieur Xi Jinping au moment même où son parti bloquait l'augmentation du budget de défense de Taïwan. Et ça fait des années que Taïwan a un gros problème, elle n'a pas assez investi dans la défense et elle est déjà vaincue militairement, mais ça va être trop coûteux pour les Chinois, donc ils veulent pas le faire maintenant. Mais si vous voulez, c'est déjà râpé. L'affaire de Taïwan est déjà classée et monsieur Trump est arrivé en Chine, il savait déjà qu'il allait devoir se taire, ronger son frein et accepter de faire amende honorable sur ce point. C'est déjà râpé puisque juridiquement, vous l'avez dit, Taïwan est chinoise. Et deuxièmement, le parti rattachiste progresse. Au moment même où on nous dit que ce pays veut être indépendant, le parti rattachiste progresse et la Chine, dans la tradition qu'elle a, très, très intelligente, de guerre sans combattre, elle est en train de créer des écosystèmes, des interdépendances, parce que de toute façon, c'est le premier partenaire de Taïwan. Taïwan ne survit pas sans, en dehors même d'un blocus, hein, sans l'économie chinoise qui est son partenaire, Taïwan ne survit pas. Donc Taïwan va devenir chinoise. Soit on le prend en considération, soit on est contre, et ce serait un conflit totalement inutile qui nous affaiblira. Et je pense que Trump a compris le message parce qu'il n'est pas prosélyte. Il sait très bien qu'il n'a rien à foire et n'a rien à faire à Taïwan. Et il a déjà pris acte de cela, ce qui montre qu'il est quand même moins bête qu'on le dit.
Pascal Mas.
Xi a très bien dit, et sans hésitation, à ses prédécesseurs comme à ses successeurs, qu'en 2049, Taïwan reviendra à la Chine pour l'anniversaire de la révolution chinoise. C'est simple. C'est comme si nous parlions de l'Alsace et la Lorraine. Il n'y a pas de discussion. Pour les Chinois de la Grande Terre, les Chinois continentaux, Taïwan fait partie de la Chine.
Mais c'est pour tout. Nous aussi, nous n'avons aucune ambassade. Il n'y a que 10 pays ou 11 dans le monde qui ont une ambassade à Taïwan.
Alexandre,
nous avons retiré nos ambassades, donc
Alexandre,
nous ne reconnaissons
nous
pas Taïwan.
Aucune voilà. raison, alors surtout pas la France, oui. parce que Taïwan, avec nos chers amis américains, ont soutenu nos ennemis pendant la guerre d'Indochine.
Absolument.
Donc, en finançant et tout ça. Donc, nous, la France, n'avons aucune raison de soutenir ce soi-disant État taïwanais.
De même que nous n'avions aucune raison de soutenir l'Ukraine, qui a le droit de se battre, mais qui n'était pas dans un accord d'alliance avec nous. Voilà, je suis d'accord avec vous, c'est l'intérêt national qui doit primer.
C'est plus récent. En quoi Taïwan se maintient, c'est que c'est ce pays est le maître de la construction des semi-conducteurs.
Oui.
C'est la seule chose qui les tient.
Oui, ben justement, si je peux aborder cela, cher François, c'était très important, ça a été abordé dans le voyage, lors du voyage de M. Trump à Pékin, l'affaire des semi-conducteurs. Ce qu'a proposé Xi Jinping à M. Trump, c'est finalement d'avoir le temps nécessaire pour que l'Amérique rapatrie les ingénieurs et les infrastructures qui coûtent des centaines de milliards. C'est énorme. On ne rapatrie pas comme ça au Texas ou en Californie le savoir-faire et les infrastructures qui permettent le gravage des semi-conducteurs sur le silicium. Après, il y a ASML en Hollande qui fait la photo-impression, mais c'est surtout à Taïwan qui a les puces de meilleure qualité, en dessous de 4 nanomètres. Et l'idée, c'est de donner le temps. Le deal va être le suivant. La Chine donne un certain temps à l'Amérique pour avoir le temps, la possibilité de faire en Amérique ce que fait aujourd'hui Taïwan. Et quand l'Amérique n'aura plus besoin de la fameuse société TSMC de Taïwan, eh bien, le moment sera venu pour que la Chine accélère sa volonté de prendre Taïwan. Le deal, il est là et ils en ont parlé, cher François, qui ne m'écoute plus.
C'était la raison de la violence.
Je vous laissais parler, cher Alexandre Desval.
Vous ne m'écoutez pas quand je vous parle.
La raison de l'avion qui s'arrête en Anchorage pour pouvoir charger le patron de la société américaine de machin là pour aller à Pékin. C'est-à-dire que la Chine maîtrise tout au niveau diplomatique, au niveau militaire, ça c'est un fait, au niveau culturel, par rapport à toutes les diasporas chinoises de par le monde, la Chine est la référence. C'est pas Singapour, c'est pas Hong Kong, c'est pas Taïwan qui sont la référence. C'est la Chine. François, vous qui vivez en Seine-Saint-Denis comme moi je l'ai vécu autrefois, vous savez très bien que Belleville, c'est la Chine en France. Hein, et avec sa diversité d'ailleurs, avec les différentes composantes de la culture et de la société chinoise. Bon. C'est Pékin qui décide de tout. Il faut se faire une raison. Xi Jinping est charmant. Il est souriant, comme toujours. Mais c'est lui le patron. Hein. Et comme l'Occident, c'est complètement prostitué en délocalisant toutes ses industries, son savoir-faire en Chine, eh bien aujourd'hui, 20 ans après, eh bien la Chine est devenue le patron.
C'est la thèse de mon livre.
Exactement. Excusez-moi, Alexandre.
On va poursuivre là-dessus. Je vais poursuivre avec vous justement sur la question incidente qui a été posée, c'est celle d'Iran ou des Trois d'Hormuz notamment. Alors, on sait que sur le détroit d'Hormuz, la Chine veut une réouverture, parce que, rappelons-le, hein, elle sort 1,5 million de barils de pétrole chaque jour. On sait que Donald Trump, lui, à contrario, veut continuer notamment le blocus qu'il exerce sur les ports iraniens. Donc là-dessus, si vous voulez, il n'y a pas véritablement de convergence entre deux. Alors on en vient à la question de l'Iran de façon incidente. Pensez-vous en effet qu'il peut y avoir un déblocage et qu'en effet il peut y avoir une négociation et que la Chine peut jouer un rôle là-dessus, sachant également qu'il y a les Français et les Britanniques qui ont un projet justement avec une quarantaine de pays justement de réouverture des Trois d'Hormuz. Pouvez-vous nous faire, à votre avis, une évaluation, une prospective de la situation sur le détroit d'Hormuz ? Pascal Masse.
Alors, la Chine et l'Iran, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on nous présente. C'est-à-dire que l'Iran, effectivement, est le premier producteur de pétrole et de produits dérivés à destination de la Chine. La Chine a créé, pas en secret, mais les Occidentaux n'ont rien vu, a créé une route de la soie à travers les 30 kilomètres qu'elle partage avec le Pakistan, dont on a dit, bon, le Pakistanais, c'est bon pour faire des chiznan et compagnie. Bien sûr. Bon, sauf que c'est pas du tout ça. C'est que le Pakistan, qui est un pays voisin territorialement de l'Iran, est en même temps, même n'étant pas un BRICS comme l'Inde, est un pays qui a des intérêts, et surtout économiques, parce que les Chinois ont développé par la route du Nord une route de la soie, qui n'est pas la route de la soie, mais c'est la route du pétrole, que les Occidentaux n'ont pas vu venir. Ils ont investi des milliards de dollars chinois pour pouvoir avoir un accès aux mers chaudes, et notamment sortir du détroit, machin. Ça veut dire que les Iraniens peuvent très bien laisser passer des pétroliers pakistanais, charger leurs marchandises dans un port pakistanais et pour ensuite le transférer par voie terrestre jusqu'en Chine, sans faire le détour vers l'extrême russe ou la mer de Chine. Tout ça, c'est-à-dire que Alexandre Delval est un grand expert et je sais très bien que lui comme moi, on partage une chose, c'est que avant de comprendre ce qui se dit, il faut regarder un atlas et de voir qui fait quoi, qui sont les voisins de qui. Et donc, je pense que à partir de cette analyse, les Chinois peuvent très bien être un acteur essentiel dans la question de iranienne, mais à leur intérêt, comme d'habitude, Alexandre.
Oui, non, mais je pense comme vous qu'il y a plusieurs voies, il y a plusieurs voies qui sont possibles pour la Chine, par le Pakistan, bien entendu, par la mer Caspienne, par la mer, parce qu'en fait le blocus, le double blocus est violé en fait. Chaque jour, les bateaux chinois qui passent pas par le Pakistan ou par la Caspienne ou par, de toute façon, les Américains les laissent passer. Une quarantaine de bateaux, c'est cette dernière semaine qui sont passés. Donc en fait, il y a beaucoup de déclarations très médiatiques et dans la réalité, c'est extrêmement différent. Mais je crois que François voulait poser une question.
Non, je voulais pas poser de question particulièrement sur la question de l'Iran. Il y a justement avec la question de l'Iran est liée, bien sûr, avec une question justement régionale d'importance, c'est celle du Liban. En effet, puisqu'on sait qu'il y a une trêve, soi-disant, de 45 jours qui a été décidée entre Israël et le Liban, sachant qu'il y a quand même une difficulté, c'est qu'il n'y a pas de guerre entre Israël et le Liban, mais il y a une guerre entre Israël et le Hezbollah, ce qui n'est pas du tout la même chose. On a un État libanais qui est tellement phagocyté par le Hezbollah, qui a le pistolet sous la tempe du Hezbollah, et qu'on sait très bien, quelles que soient les déclarations, notamment des Occidentaux, que l'armée libanaise n'est pas du tout en mesure de désarmer le Hezbollah. Je vais aller beaucoup plus loin. Israël n'est même pas non plus en mesure de désarmer le Hezbollah pour plusieurs raisons. C'est que le Hezbollah est disséminé, notamment dans tout le Liban. Il a même passé des armes au Liban Nord avec, alors pas, si ce n'est la complicité, du moins la passivité de l'armée libanaise, hein, ou qu'il occupe certains postes. Je rappelle que même plusieurs officiers des généraux de l'armée libanaise sont liés au Hezbollah, sont des chiites. Et à partir de là, on craint en effet que le conflit soit un conflit sans fin, puisque Israël, lui, ne veut plus en effet subir la moindre attaque sur son territoire. On voit notamment qu'ils essaient de composer au Liban Sud une espèce de marche, hein, un no man's land de 6-7 km, en effet, qu'ils veulent tout à fait contrôler, et ensuite une zone qui, entre leurs frontières et le fleuve Litanie, en tout cas, qu'ils veulent continuer à ratisser, à neutraliser. On a vu qu'il y avait des tunnels de plusieurs kilomètres, et que visiblement, le Hezbollah aurait pu se commettre un véritable 7 octobre dans le nord d'Israël. Peut-être plus redoutable, parce que les combattants du Hezbollah sont encore beaucoup plus redoutables que ceux du Hamas. Alors, Pascal Mas, aucune, en effet, perspective aujourd'hui de désarmement du Hezbollah?
Aucune. Aucune.
Aucune. Plus précisément.
Alors. C'est-à-dire que le Hezbollah est un État dans l'État, comme vous l'avez déjà dit ici à cette antenne et autrefois, avec l'argent, bien sûr, de l'Iran, mais aussi avec l'argent des trafics de vente de pétrole, qui arrange pas mal de monde. C'est absolument sordide, mais le Hezbollah n'est pas qui a joué un rôle, notamment au Liban et dans certaines parties du monde arabo-musulman, a joué un rôle social qui fait qu'il bénéficie encore, même aujourd'hui, enfin, des gens l'aiment bien, quoi, parce que ils s'occupent des enfants, ils font des bourses pour les étudiants et tout ça. C'est absolument abject, mais c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, si le Hezbollah n'est pas éradiqué fondamentalement, financièrement et militairement, il n'y a aucune chance pour que le conflit s'arrête.
Qui a les moyens de le faire? Ou est la volonté de le faire?
Ah, très bonne question. Volonté et possibilité, c'est de couper les lignes de crédit du Hezbollah. Ça, c'est sûr. C'est valable pour beaucoup de choses. On parle par exemple de notre ministre du Macronistan là, qui va aller faire le clown en Algérie. On peut très bien avoir des moyens de pression sur le gouvernement algérien. Ça n'a rien à voir, mais c'est la même méthode. C'est-à-dire que le Hezbollah peut très bien être anéanti sur ses fonds. S'il n'y a plus d'argent... Il n'y a plus d'argent pour soutenir.
Oui, il faudrait que le gouvernement libanais gèle les transferts de fonds entre l'Iran et le Liban. Et on sait également que les Iraniens ont des fonds dans le Golfe, y compris même aux Émirats, dont ils sont pour son adversaire, au Qatar.
C'est comme si on disait que, est-ce qu'on va saisir les avoirs des nazis? Hein, de leur statut, de tout ce qu'ils avaient caché, voilà. C'est la même chose. Le Hezbollah, c'est une partie d'une organisation mafieuse, donc il faut la saisir.
Mais avec beaucoup de trafic dans beaucoup de pays d'Amérique latine, ça va être très compliqué. Des investissements dans
Alexandre,
les bitcoins.
Je suis complètement de votre avis.
Des réseaux
bancaires. Il faut saisir partout.
Ben là, on est dans quelque chose de difficilement.
En sachant que Russes et Chinois, forcément, et Iraniens encore moins, ne laisseront pas forcément l'intervenant saisir un certain nombre de biens du Hezbollah.
Pas sûr, François. Pas sûr.
Alors, pour terminer, notamment, on va revenir en Europe avec ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Alors, la semaine dernière, il y a eu des élections locales qui ont vu arriver en tête le parti Restore UK de Nigel Farage, qui était l'ancien leader de l'UKIP, qui a été d'ailleurs représenté à juste titre comme le véritable vainqueur du Brexit. Rappelons que à la suite du Brexit, ensuite, il s'est mis en retrait de la vie politique et sur la question notamment de l'immigration, de la souveraineté britannique et surtout de la faiblesse du gouvernement de Keir Starmer, qui a montré en effet toute sa faillite et son incompétence en 2 ans. Nigel Farage a réactivé un nouveau parti qui est arrivé en tête aux élections locales avec une baisse catastrophique pour le parti travailliste de Keir Starmer, mais également un tassement du parti conservateur, même si la nouvelle leader, Kemi Badenoch, qui est une personnalité assez intéressante, d'origine nigériane, mais qui représente également l'aile droite, il faut remarquer, du parti conservateur, contre le wokisme, contre l'immigration, peut-être une des personnalités d'ailleurs les plus à droite depuis Margaret Thatcher, qu'on a eu à la tête du parti conservateur, qui a également échoué. Et puis on a vu monter également alors le SNP, le Scottish National Party indépendantiste, qui a repris la première place, et au Pays de Galles, le Plaid Cymru, qui était autonomiste, mais qui a une tendance aujourd'hui de plus en plus indépendantiste, qui prend la main. Et on a même vu le patron du SNP, le SNP qui a connu un certain nombre de turpitudes, qui a eu un premier ministre d'origine pakistanaise et pratiquement islamiste, un espèce de Mamdani local, prend le pouvoir. Depuis, celui-ci a dû quitter son poste de premier ministre. Ensuite, on voit deux choses, notamment un Nigel Farage qui apparaît peut-être comme un possible vainqueur des prochaines élections législatives. Rappelons que le mode de scrutin en Grande-Bretagne, c'est le mode de scrutin uninominal à un tour. Un parti qui fait 25% peut avoir la majorité absolue à la Chambre des communes, mais également un parti en effet. Alors d'une part, ça signifierait une chose, c'est que on a eu un bipartisme traditionnel pendant 250 ans. Fin 18e jusqu'aux années 30, les White et les Tories, les libéraux et les conservateurs, et depuis les années 30, les conservateurs et les travaillistes. Là, visiblement, les partis qui montent, c'est d'une part Restore UK, et également le parti écologiste, qui était un véritable parti écologiste. Alors lui, je vous souviens plus du nom de ce leader, qui est tout à fait... Qui défile avec des drapeaux palestiniens, qui ramène avec lui une bonne partie de la communauté musulmane, notamment indo-pakistanaise, et là, véritablement, qui pourrait être le nouveau, à la fois le nouveau, il y a un point de bascule, un nouveau bipartisme totalement inédit en Grande-Bretagne, et également des forces centrifuges, c'est-à-dire visiblement une remise en cause du Royaume-Uni, puisque, rappelons-le, en Irlande, le Sinn Féin qui est au pouvoir joue sur la majorité démographique des catholiques et pourrait demander prochainement la réunification de l'île. Les Écossais, dont le leader a dit que si Farage arrivait au pouvoir, la question de l'indépendance serait à nouveau posée, il demanderait un nouveau référendum. Le dernier a eu lieu en 2015. Et enfin, les Gallois qui demandent également, eux, plus d'autonomie. Alors, Alexandre Delval, panorama du Royaume-Uni.
Moi, je pense que ce pays est le pays le plus abîmé par l'immigration islamique en général. Et Farage a compris un peu tard que le Brexit a mal été géré, parce qu'en fait, les Brexiteurs, dans les premières années, lorsqu'il avait son premier parti, qu'il était au Parlement européen, je me rappelle, c'était un Brexit qui n'était pas identitaire. Beaucoup de conservateurs et de nationaux comme lui étaient encore très très proches du Pakistan. Ils avaient ce Global Britain dans la tête. Ils étaient souverainistes en apparence, mais ils n'osaient pas parler ni d'islam, ni d'islamisme. Sur les affaires de blasphème, de Rushdie et compagnie, on les voyait très frileux. Et en fait, Nigel Farage a dû tenir compte du fait que son électorat s'est senti trahi. Beaucoup d'Anglais ont voté pour le Brexit en croyant, parce qu'on leur avait promis, que c'était pour bloquer l'immigration. En fait, le Brexit n'a pas bloqué l'immigration, et je conclue là-dessus, le Brexit a bloqué l'immigration blanche européenne et pas l'immigration du Commonwealth pakistanaise et musulmane. Et aujourd'hui, le nouveau Farage n'a rien à voir avec ce qu'il était à 15 ans. Il était obligé de tenir compte de ce ras-le-bol d'une immigration extra-européenne.
C'est peut-être, excusez-moi, Churchill, quand l'Europe, l'Angleterre ne choisit pas l'Europe, elle choisit le grand large. Là, visiblement, sur le grand large. C'était Pascal Masse, en 30 secondes, sur la Grande-Bretagne.
Eh bien, moi, j'ai vécu en Grande-Bretagne en 82-83, et ça commençait déjà les doutes sur le vivre ensemble, comme on dit ça en français. Et en vérité, maintenant, les Anglais n'en peuvent plus. Ils en peuvent plus, ils ont été trahis, ils se rendent bien compte que les gens auxquels on leur a dit qu'ils seraient leurs amis, ben c'est pas ça.
Alors je termine une question d'un auditeur qui nous dit: vous parlez de la Chine, de Taïwan, il est bien triste que même sur Radio Courtoisie, personne ne parle du sort des chrétiens persécutés à la chute de Pékin. Ben nous en parlons également, la Chine demeure un régime totalitaire notamment, et empêche notamment les conversions de chrétiens qui seraient de plus en plus nombreuses. En effet, les Chinois essayent d'échapper à cette société rigoureuse sans objectif, en effet, par la conversion au christianisme. Et nous pensons bien sûr très fort à ces chrétiens de Chine à qui il faudra consacrer peut-être une émission. Merci, chers amis auditeurs. Je vous donne rendez-vous, nous l'espérons, dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le libre journal du lundi soir, dirigé par François Constantini, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 18 mai 2026, de 19h30 à 21h, et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.